Vous écoutez, on lit pour vous.
Patrice Cazot, co-créateur de l'événement Sort de l'ombre, une entrevue réalisée par Joséanne Paradis, parue le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Patrice Cazot, c'est l'un des deux fondateurs, avec Amélie Dubé, de l'initiative Le 12 août, j'achète un livre québécois. Malgré le succès monstre de cet événement depuis 12 ans, l'auteur prolifique, dont le plus récent roman « Le roi grenouille » est publié dans la collection de récits horrifiques « Les contes interdits d'Ada », est demeuré, somme toute, discret depuis toutes ces années. Pour cette 12e édition du 12 août, il a accepté de nous en révéler un peu plus sur les germes de l'initiative. Cette idée folle, mais toute simple, qui a su toucher la corde sensible des lecteurs. Et on vous assure que la raison pour laquelle c'est cette date précisément qui a été choisie vous arrachera un sourire. Comment est née l'idée du 12 août « J'achète un livre québécois » Qu'est-ce qui vous a poussé, Amélie Dubé et vous, à lancer ce mouvement? C'est vraiment né d'un coup de tête. Amélie et moi, voulions nous éloigner du discours pessimiste qu'on entendait dans le milieu au sujet de la précarité des auteurs et de l'impopularité du livre québécois sur les rayons des librairies. Nous nous sommes demandé ce qu'on changerait si nous disposions d'une baguette magique, et nous nous sommes dit que, si nous étions en mesure de susciter une demande, de prouver l'appétit des lecteurs pour les livres québécois, nous réglerions tous les problèmes du monde. Nous étions jeunes, naïfs et fous. Mais 12 ans plus tard, on y croit encore. Pourquoi avoir choisi précisément le 12 août? Est-ce une date symbolique ou un hasard du calendrier? C'est une raison que j'ai longtemps gardée secrète. En fait, quand nous avons eu l'idée, Amélie et moi, nous étions bien impatients de la lancer dans l'univers. Nous voulions profiter de l'été pour que l'événement soit festif, avant la fin des vacances et le brouhaha de septembre. Et c'est en scrutant mon calendrier que j'ai réalisé que le 12 août était la date à laquelle j'ai signé mon premier contrat d'édition. La fête du livre d'ici se tient donc un peu secrètement le jour où je suis né en tant qu'auteur. Comment avez-vous vu l'événement évoluer au fil des ans? Y a-t-il une édition qui vous a particulièrement marqué? Je dirais que c'est vraiment à partir de la 3e édition qu'on a senti que l'événement s'imposait de plus en plus comme une tradition dans le monde littéraire québécois. C'est à ce moment que nous avons vu les libraires s'organiser et rivaliser de créativité pour faire connaître le 12 août. C'est aussi à ce moment que les questions des journalistes sont passées de « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe » à « Parlez-nous de la fête du livre québécois ». Un des moments marquants, c'est pendant la 2e année où nous avons eu un participant qui s'est procuré un livre au Vietnam dans une librairie de livres usagés. C'est à ce jour le record du lecteur qui s'est le plus dévoué pour l'événement. Est-ce difficile de garder l'élan et l'enthousiasme du public après 12 ans? Comment continuez-vous à innover? Non, au contraire, les gens nous le redemandent, année après année. Et nous sommes très fiers de ne pas tant innover. Au début, nous avons lutté très fort pour ne pas complexifier inutilement la chose. Ce qui fait la force du 12 août, c'est la simplicité de son message et du geste qu'on invite à poser. Comment et par qui sont choisis les illustrateurs qui font l'affiche officielle chaque année? C'est nous qui choisissons les artistes qui illustrent officiellement le 12 août chaque année. Ce sont nos coups de cœur qui nous guident. La première année, j'avais utilisé une photo de mon fils alors bambin, qui lisait dans son hamac. Mais quand l'événement a pris de l'ampleur et que j'ai vu sa photo circuler dans les médias qui relayaient la nouvelle, j'ai compris qu'il valait mieux confier le visuel du 12 août à des pros. Parfois, ce sont les artistes qui nous approchent. D'autres fois, c'est nous qui tendons une perche. Nous sommes tellement chanceux que des illustratrices de talent nous confient leurs plumes chaque année. Comment voyez-vous l'avenir de cette initiative? Je crois qu'on est déjà rendu à la prochaine étape. Les gens se sont appropriés l'événement, mais surtout, ils s'inscrivent dans les habitudes des participants le reste de l'année. Les lecteurs continuent à se lancer à l'aventure et à découvrir de nouveaux auteurs québécois dans les mois qui suivent. Et le 12 août continuera d'agir comme un phare, comme lieu de rassemblement et comme occasion de célébrer la richesse de notre littérature. Vous ne vous êtes jamais mis de l'avant. Vous refusez de prendre parole publiquement pour laisser réellement place à l'idée du livre québécois et ne pas vous approprier, en tant qu'auteur, le crédit. Pourquoi ne jamais avoir voulu profiter de l'événement et des multiples demandes d'entrevues qui vous ont été soumises depuis les 12 dernières années pour mousser votre propre carrière? Pour moi, c'est une évidence. Je veille scrupuleusement à ne pas braquer le projecteur sur moi ou sur mes romans dans le cadre du 12 août. C'est le travail de tous les auteurs et autrices qu'il faut mettre en valeur. C'est d'ailleurs l'une des statistiques dont je suis le plus fier année après année. Chaque 12 août, il y a un nombre toujours plus vaste d'auteurs qui sont découverts lors de l'événement. Je reste persuadé que le fait de rester effacé contribue au succès de cette initiative. Les lecteurs répondent ensemble à cet appel, année après année, parce que l'événement reste authentique et fidèle à ses racines, celle du plaisir de la découverte et de l'amour pour la littérature québécoise. Si vous pouviez dire une chose au lecteur ou à la lectrice qui hésite encore à acheter un livre québécois, ce serait quoi? Qu'il n'y a aucune raison d'hésiter. La littérature québécoise est riche et diversifiée, portée par une multitude de voix. C'est impossible de ne pas tomber en amour avec un livre qu'on s'est procuré un 12 août. C'était Patrice Cazot, le co-créateur de l'événement « Sort de l'ombre », une entrevue réalisée par Joséanne Paradis, parue le 10 juin 2025 dans Les Libraires.
Jim Robb, rencontre autour d'un lunch. Un texte de Marine Dumaine, paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale. Un restaurant de la rue Main de Whitehorse. Midi et demi. Jim Robb m'a donné rendez-vous là où il vient manger chaque jour, ou presque. Je m'assois en face de lui, à une petite table, et je commande la même chose. Ce qu'il a commandé n'est pas au menu, c'est son spécial. Ici, comme presque partout où il va, il a ses habitudes. Jim Robb est un des artistes yukonais les plus connus au Yukon. Ses dessins sont partout. Du logo emblématique du 98, le bar le plus ancien de Whitehorse, aux décorations des murs de restaurants, en passant par les halls des bâtiments gouvernementaux ou les collections personnelles. Pas étonnant, il vit au Yukon depuis 70 ans. Né à Québec en 1933, Jim a vécu à Montréal de ses 6 à 22 ans, dans un quartier anglophone, explique-t-il. Une ville qu'il tient encore chère dans son cœur, surtout pour sa culture très artistique. Quand je lui demande quand il a commencé à dessiner, la réponse se perd avant d'arriver à ses lèvres. Est-ce qu'il dessinait déjà avant de venir au Yukon? Oui, répond-il sans s'étendre, comme une évidence. Je passe à une autre question. Comme beaucoup, il arrive au Yukon dans la vingtaine. C'est en 1955 qu'il met pied à Whitehorse, à l'âge de 22 ans. Le Yukon, c'était pour lui une destination passion. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors, la ruée vers l'or, le Klondike, ça m'a attiré et je suis venu ici. Je voulais y faire un tour et voir à quoi ça ressemblait. Depuis lors, il recueille, dessine, photographie, consigne, promeut et collectionne les artefacts et les histoires qui font l'histoire. La serveuse nous apporte deux énormes bols de gruau accompagnés de lait, de fruits en conserve, 5 tranches de bacon et 2 œufs pochés. J'engloutis ce déjeuner klondikesque sans m'en rendre compte, tandis que Jim me raconte ce qui lui passe par la tête. J'ai arrêté de poser des questions. Je le laisse raconter et j'écoute. Même mon enregistreuse a abandonné. Il y a trop de bruit dans le restaurant. Alors je plonge à pieds joints dans sa mémoire, une cuillère de gruau à la main. Il me parle des Whiskey Flats, une communauté de squatters qui se trouvait à la place du parc Rotary actuel, un quartier qui le fascinait autant par ses bâtiments que par les personnes qu'on pouvait y rencontrer. Il me parle d'un de ses premiers emplois au Yukon pour la promotion du barrage de Riverdale, dans la fin des années 1950, avant qu'il ne devienne artiste à temps plein. Il me raconte aussi ses amis qui ont acheté des cabines à Dawson et sa préférence pour Whitehorse, bien qu'il ait vécu dans les villes du Klondike quelques années, ici et là, dans le temps. Il me parle un peu de son frère, décédé quelques mois plus tôt. Il me parle aussi de Wigwam Harry, de Cowboy Smith, des personnes qui ont inspiré des dessins. Mais surtout, il me questionne beaucoup. Il est très interpellé par le fait que je vienne de France. Il me questionne sur la francophonie au Yukon. Il cherche à connaître mon histoire, tandis que moi, je souhaite connaître la sienne. Puisque je suis francophone, Jim me parle des artistes franco-yukonais qu'il apprécie particulièrement. Alain de Repentigny est sans aucun doute une personne qu'il respecte énormément. Il apprécie sa démarche, mais aussi son style artistique et la façon dont il a évolué en tant qu'artiste. Il me parle aussi de Nathalie Parenteau. Je lui promets alors qu'elle fera l'objet, elle aussi, d'un article dans un prochain magazine. Il semble satisfait. Une rencontre avec Jim Robb, c'est forcément un moment plein d'interruptions. Tout le monde le salue. Lui-même interpelle les gens. « Salut, comment va un tel? Dis-lui de m'appeler pour un lunch. » Finalement, son ami Rick Zuran arrive et nous changeons de table pour continuer ce brunch en sa compagnie. La discussion tourne autour des mines. Les anciennes, peuplées des personnages de ses chroniques et de ses dessins, mais aussi les nouvelles. Jim apprécie les personnes qui travaillent dans les mines. Ce sont toujours des personnages intéressants. Ils ont tous une histoire colorée, me confie-t-il. Pas moins de 4 tasses de café plus tard, nous traversons la rue pour aller dans un autre de ces endroits familiers, le Gold Pan Saloon, un autre bar emblématique de la ville. Énième café. Il constate qu'il ne connaît pas grand monde ici. Ça semble le chagriner. Un groupe de jeunes personnes qui célèbrent l'arrivée du vendredi autour de Pichette Bière, à 14 h, accapare son regard et ses pensées. Nous buvons le breuvage chaud en silence. Puis il se lève et m'amène dans la salle adjacente. Ses dessins y ornent presque tous les murs. Et pour chacun, il se souvient d'anecdotes et m'en partage quelques-unes. Les 5% pleins de couleurs. En 1971, Jim Robb a commencé une chronique, The Colorful 5%, pour le journal Whitehorse Star, qui traitait principalement de la vie des bâtiments historiques et des gens qu'il trouvait uniques, qui avaient quelque chose qu'il trouvait intéressant, mais avec une certaine façon d'être intéressant. Colorful 5% est un terme qu'il a inventé et qui lui appartient désormais, m'indique-t-il. En 1984, il publie le premier des 3 livres, The Colorful 5% Illustrated. on peut y lire sa définition des 5 % Nouveaux arrivants, résidents de longue date, riches ou pauvres, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'ils aient ce quelque chose qui les différencie des 95 % du reste de la population. Ils choisissent ces sujets pour leur côté excentrique, photogénique, leur qualité, leur réalisation ou leurs attitudes ou personnalités marquées. Comme moyen d'expression, ils utilisent alors l'écriture, le dessin bien sûr, mais aussi la photographie. « J'avais envie de savoir faire de la photographie », m'explique-t-il. « Alors, j'ai cherché quelqu'un pour me l'enseigner. J'ai appris et j'ai intégré des photos dans mes chroniques et dans les 5 %. Par la suite, quelqu'un m'a dit que mes photos avaient du caractère. Ça m'a beaucoup touché », dit-il avec humilité. Il décide alors de m'amener dans sa caverne d'Ali Baba, proche de sa maison, dans le but de me montrer ses photos. Dans cet antre, il entrepose un véritable capharnaüm de trésors. Au milieu d'artefacts et d'impressions de ses dessins les plus célèbres, il cherche ses photos, tout en continuant de me raconter ses histoires. J'en profite pour poser une dernière question sur ses futurs projets. « J'aimerais bien faire un nouveau livre des Colorful 5%, m'indique-t-il, avec toujours cet intérêt pour les Whiskey Flats. » Il me montre aussi un tableau qu'il a encadré dans une vieille porte récupérée de bâtiments historiques. « J'en ai une dizaine. J'aimerais bien en faire une exposition », confie-t-il. Nous finissons par trouver une des photos qu'il cherche, celle de Black Mike Winage, cachée derrière une autre, où un Jim Robb dans la vingtaine pose fièrement devant l'œuvre qui a lancé sa carrière. Un dessin plus grand que nature de Wigwam Harry. Aujourd'hui, Jim a répondu aux questions que d'autres avant moi lui avaient déjà posées. Je n'ai pas appris grand-chose qui soit inédit, mais peu m'importe, car une entrevue avec Jim Robb, ce n'est pas pour avoir une histoire classique. Ce que j'ai retiré de cet après-midi hors du temps, c'est que Jim Robb est lui-même l'oriflamme des personnages emblématiques du Yukon qu'il a illustré, décrit et photographié. Il peuple sa mémoire, et la cabane attenante à sa maison est remplie de ses souvenirs. C'est une personne passionnée de rencontres. Et du haut de ses presque 92 ans, il cherche encore et toujours les choses uniques au sujet des gens. De cette entrevue, j'aurais gagné un surnom, Mousetrap Marine. Oui, j'avais un piège à souris dans mon auto et ça l'a fait rire. Qui sait? Jim Robb dessinera peut-être un jour les souris qui ont peuplé ma petite voiture. C'était Jim Robb, rencontre autour d'un lunch. Un texte de Marine Dumaine paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale.
Découverte de vestiges d'une cité maya de 2800 ans au Guatemala. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Des archéologues ont découvert des vestiges d'une cité maya datant de plus de 2800 ans dans le nord du Guatemala, ont annoncé jeudi le 29 mai 2025 les autorités du pays d'Amérique centrale, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre cette civilisation préhispanique. La civilisation maya s'est étendue sur des territoires qui occupent actuellement le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras, et son existence remonte à au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, connaissant son apogée pendant la période classique entre 400 et 450 après Jésus-Christ. La découverte a été faite à 21 kilomètres du site archéologique d'Oaxactun, dans le département de Petén, principal site archéologique du Guatemala, près du Mexique, l'un des lieux les plus visités du pays, a indiqué le ministère guatémaltèque de la Culture dans un communiqué. Le site, qui s'étend sur environ 16 kilomètres carrés, date du préclassique moyen, 800 à 500 ans avant Jésus-Christ, s'est révélé être l'un des centres cérémoniels les plus anciens et importants de cette période de la civilisation maya dans cette région forestière de Petén, explique le ministère. Le site présente une planification architecturale remarquable, avec des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments sculptés, avec une iconographie unique de la région. La cité a été baptisée Los Abuelos, les grands-parents, en raison de la découverte de deux sculptures anthropomorphes qui représentent un couple ancestral. Ces figures, datées entre 500 et 300 ans avant Jésus-Christ, pourraient être liées à d'anciennes pratiques rituelles de culte aux ancêtres, renforçant leur pertinence culturelle et symbolique, a ajouté le ministère de la Culture. En plus de la cité, un autre secteur connu sous le nom de Petnal a été découvert où trône une pyramide de 33 mètres de hauteur ornée de fresques datant du préclassique, ainsi qu'un site appelé Cambrayal, qui comporte un système de canaux uniques de transport de l'eau. L'ensemble de ces trois sites forme un triangle urbain jusqu'alors inconnu. Les découvertes permettent de repenser la compréhension de l'organisation cérémonielle et sociopolitique du Petén préhispanique, souligne le communiqué. Grand puzzle. Le directeur du projet archéologique, le Slovaque Milan Kovac, a expliqué lors d'une conférence de presse que les fouilles préliminaires avaient commencé en 2023 et que depuis le début de l'année 2025, elle s'était étendue à plus grande échelle pour comprendre sa chronologie et aussi l'importance politique et rituelle du site dans la région. La sous-directrice du projet, Dora Garcia, a ajouté que la quantité de données et les nouveaux artefacts découverts fournissent plus d'informations pour continuer à reconstruire la culture maya de Petén. Chaque petit morceau que nous pouvons obtenir des fouilles est fondamental pour nous. C'est comme une pièce du grand puzzle que nous assemblons, a-t-elle déclaré. Les Mayas ont été l'une des plus grandes civilisations préhispaniques d'Amérique et ont laissé de grandes contributions à l'humanité, comme la découverte du chiffre zéro. Ils ont également développé un système avancé d'écriture hiéroglyphe et avaient développé un calendrier qui continue d'étonner archéologues et astronomes. Les Mayas ont légué la culture du maïs, du cacao et, selon certains, du chewing-gum, provenant de la sève d'un arbre qui était cuite, la gomme à mâcher. Au Guatemala, 22 groupes ethniques sont d'origine maya, représentant 42 % des 18 millions d'habitants, la plupart vivant dans la pauvreté. C'était « Découverte de vestiges d'une cité maya de 2800 ans au Guatemala », un texte de l'agence France-Presse paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Les territoires du Nord-Ouest ne paieront pas pour le campement de sans-abri à Yellowknife. Un texte de Radio-Canada avec les informations d'Hillary Bird paru le 24 juin 2025 sur Ici Grand Nord. La ministre responsable d'Habitation territoire du Nord-Ouest, Lucy Kuptana, a déclaré que le territoire ne paiera pas, entre autres, pour des toilettes portatives, de l'eau potable et des tentes ignifugées au campement de sans-abri à Yellowknife. Le campement, situé près du centre du patrimoine septentrional Prince de Galles, abrite entre 15 et 20 personnes depuis presque un mois. Le 9 juin, la ville de Yellowknife s'est engagée à fournir ses services, mais seulement si le territoire acceptait de les financer. La ministre Lucy Kuptana, estime que, sur la base de l'expérience du gouvernement, avec le campement des appartements d'Aspen de l'été dernier, la décision a été prise de ne pas donner suite à cette demande. Nous nous sommes rendus compte que c'était difficile, de temps en temps, voire la plupart du temps, en termes de nettoyage, de temps de réponse en cas d'urgence, d'application des règlements municipaux, mais aussi de responsabilité, a-t-elle déclaré. Si nous continuons d'aider ce campement et qu'un incident se produit dans le campement, le gouvernement est-il responsable? Ajoute-t-elle. La ministre recommande aux résidents du campement de se rendre au refuge municipal de la 49e rue qui dispose de salles de bain, d'un service de gestion des déchets et d'un personnel sur place susceptible d'apporter de l'aide. Elle encourage également les personnes en situation d'itinérance à se disperser à travers la ville plutôt que de se regrouper dans un seul campement. Il est plus facile de gérer un emplacement individuel. Lorsque vous campez en groupe, les difficultés surviennent davantage. Il y a plus de déchets, plus de bruit. Selon Lucy Kuptana, si le campement continue de s'étendre, le gouvernement territorial continuera de parler avec l'avocat représentant les sans-abri du campement, Peter Adourian, et avec ses interlocuteurs de l'Armée du Salut ainsi que de la ville de Yellowknife. Elle rappelle que sur le long terme, le territoire a mis en chantier de nouveaux bâtiments pour aider les personnes en situation d'itinérance à retrouver une vie plus stable et intégrée à Yellowknife. Ce projet devrait accueillir des pensionnaires à partir de septembre, non loin du site du festival Folk on the Rocks. Cette initiative devrait fournir 25 places et, selon la ministre, fait partie d'une stratégie plus vaste pour s'adapter aux besoins de davantage de Ténois. C'était « Les territoires du Nord-Ouest ne paieront pas pour le campement de sans-abri à Yellowknife », un texte de Radio-Canada avec les informations d'Hillary Bird, paru le 24 juin 2025 sur Ici Grand Nord.